VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, 11h en temps universel, bonjour à tous. Au moins 14 personnes sont portées disparues dans le naufrage de deux embarcations dans la nuit de lundi à mardi sur le fleuve Congo, selon un bilan fourni aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo. On dénombre par ailleurs 108 rescapés, dont 68 hommes et 44 femmes et un enfant. Selon un élu de la région Didas Pembe, des centaines de personnes seraient portées disparues, invoquant des témoignages d'habitants. Ces chiffres n'ont pu être confirmés jusque-là par d'autres sources. Et toujours concernant la RDC, le président congolais Joseph Kabila a donné son accord pour une visite conjointe dans son pays du patron de l'ONU, Antonio Guterres, et du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Aucune date précise n'a encore été arrêtée pour cette visite. Le gouvernement nigérien a annoncé hier la mise en place d'un comité pour comprendre les circonstances de l'enlèvement de 110 élèves à Dapchi, dans le nord-est du pays. Anastasie Toudiech.
Le groupe de 12 membres est composé de militaires, de policiers, d'agents du renseignement et des membres du gouvernement local de Yobe. Il est présidé par un haut gradé de l'armée. D'après Lai Mohamed, ministre nigérian de l'information, ce comité doit évaluer la présence et la composition de l'appareil sécuritaire à Dapchi lors de l'attaque. Un rapport est attendu au plus tard le 15 mars avec des recommandations sur des mesures de prévention pour empêcher un nouvel incident. Le gouverneur de l'état de Yobe, Ibrahim Gaïdam, a déclaré qu'il n'y avait aucune présence militaire à Dapchi au moment de l'attaque du 19 février. L'armée a aussitôt démenti, qualifiant ces accusations de regrettables et très loin de la réalité. D'après les témoignages des habitants, des djihadistes présumés sont arrivés à Dapchi dans le but précis de mener ce kidnapping de masse. 110 élèves sont toujours portés disparus, près de 4 ans après la tragédie à Chibok, où plus de 200 lycéennes avaient été enlevées.
Au Niger, l'ambassadeur américain à Niamey affirme que les États-Unis n'ont pas de base militaire dans ce pays où 4 bérets verts sont morts en octobre 2017 dans une embuscade au niveau du village de Tongo-Tongo. Cette annonce d'Eric Whitaker intervient dans une période de vive critique contre les présences militaires étrangères sur le sol nigérien. Reportage du correspondant de VOA Afrique à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
Alors que beaucoup de voix s'élèvent dans l'opinion pour dénoncer et même exiger le départ des troupes militaires étrangères sur le sol nigérien, l'Italie ayant récemment annoncé aussi son intention d'envoyer environ 400 soldats au Niger, le ministre de la Défense nationale a récemment expliqué le bien fondé de cette présence militaire étrangère sur le sol nigérien tout en les clarifiant. Kala Moutari.
Les présences militaires de notre pays, il y en a deux. La France à Niamey, parce que nous avons prêté nos équipements et notre territoire à tous ceux qui pouvaient aider le Mali à sortir de la crise dans laquelle il était plongé il y a quelques années. Nous avons fait appel aussi aux Américains. Il n'y en a que ces deux, les Français et les Américains.
Les États-Unis d'Amérique n'ont cependant pas de base militaire sur le sol nigérien, selon son nouvel ambassadeur en poste à Niamey, qui était face à la presse ce mardi, Eric Whitaker.
Non, il n'y a pas de base militaire au Niger. Ils sont là en tant que troupes militaires pour la formation et l'assistance aux militaires nigériens et ils sont là temporairement.
Le nombre de soldats américains au Niger est estimé à 800. En octobre 2017, 4 d'entre eux ont été tués dans une embuscade au niveau du village de Tongo-Tongo, près de la frontière malienne. Les résultats de l'enquête sur les circonstances de la mort de ces 4 bérets verts annoncés pour le mois de janvier dernier sont toujours attendus. Sur la question, le diplomate américain répond ceci.
It is long in coming, you have a good point.
L'enquête sur ce qui s'est passé à Tongo-Tongo tarde à sortir, mais vous ne pouvez pas comprendre combien ce rapport est long. C'est des milliers de pages. Et c'est compliqué, la procédure est compliquée. Il faut, après avoir fini l'investigation, quand les résultats sortiront, il y a une chaîne pour approuver ce rapport. Il faut aussi que les familles des victimes soient mises au parfum, etc., etc. Mais c'est en cours. Ça va venir très prochainement. Ça sera en public.
Abdul Razak Idrissa, Niamey, VOA Afrique.
Les autorités haïtiennes ont rappelé mardi leur ambassadeur auprès de l'ONU pour des consultations après la publication d'un communiqué de la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice, la MINUSUS, qu'elles ont considéré partisan et nuisible. La MINUSUS a mécontenté les autorités haïtiennes en saluant dimanche la nomination de juges chargés d'instruire des plaintes déposées depuis le début de l'année dans le cadre du dossier Petro-Caribe. Depuis que le pays a intégré ce programme, cette source conséquente de devises a suscité des doutes sur son bon usage, car contrairement aux autres aides financières internationales, ces fonds sont dépensés à la discrétion des gouvernements sans devoir rendre compte aux bailleurs vénézuéliens.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Près de deux semaines après la fusillade meurtrière qui a fait 17 morts, les élèves du lycée Marjorie Stoneman Douglas reprennent ce mercredi les chemins des écoles, des classes, ici aux États-Unis. Les élèves ont maintenu mardi la pression face à des parlementaires américains réticents à s'engager dans une réforme de la réglementation des armes à feu. Toujours aux États-Unis, la Cour suprême a jugé hier que les migrants détenus n'ont pas droit à une demande de libération conditionnelle, même quand leur rétention administrative se prolonge de façon interminable. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Les immigrés clandestins risquent désormais de passer des mois, voire des années en détention s'ils sont interpellés pour avoir franchi illégalement la frontière et qu'ils contestent leur expulsion, ou s'ils sont arrêtés pour une infraction valant expulsion et qu'ils choisissent de lutter pour rester aux États-Unis. Il est incroyable qu'un citoyen arrêté pour un crime ait droit à une audience dans les 48 heures, alors qu'un étranger qui n'a commis aucun crime va être détenu 6 mois sans être entendu par un juge, a réagi David Cole de l'Organisation américaine de défense des droits des immigrés. Stephen Breuer, un des juges progressistes de la Cour, opposé à cette décision, a appelé à se souvenir du mot « liberté » contenu dans la Déclaration d'indépendance des États-Unis. L'affaire jugée hier trouve son origine dans un recours collectif lancé par un Mexicain, Alejandro Rodriguez, et d'autres étrangers. Arrivé en bas âge aux États-Unis, M. Rodriguez bénéficiait d'un permis de séjour. Toutefois, il a été interpellé pour détention de stupéfiants et les autorités voulaient l'expulser. Il a passé 3 ans en détention avant de pouvoir faire valoir son droit de rester dans le pays.
Une enveloppe contenant une substance inconnue a été ouverte mardi sur une base militaire américaine près de Washington, à la suite de quoi 11 personnes se sont senties mal. Le courrier avait été envoyé à la base Myers-Anderson Hall, dont un bâtiment a été évacué. 3 militaires ont expliqué à la chaîne CNN avoir ressenti des sensations de brûlure sur les mains et le visage. Le porte-parole des Marines a expliqué qu'il était impossible de dire à ce stade s'il s'agissait ou non d'une attaque terroriste. En Afghanistan, le président Ashraf Ghani a proposé aujourd'hui un cessez-le-feu préalable pour parler de paix sous condition aux talibans afin de mettre un terme à 17 années de guerre en Afghanistan. Il devrait y avoir un cadre politique à la paix, un cessez-le-feu devrait être proclamé, les talibans devraient être reconnus comme un parti politique et un processus de renforcement de la confiance devrait être lancé, a déclaré le chef de l'État afghan en ouverture de la 2e conférence du processus de Kaboul. Cette initiative réunit les représentants de plus d'une 20aine de pays de la région, ainsi que les États-Unis et l'ONU, mais pas les talibans, dans l'enceinte d'un ministère des Affaires étrangères afghan en état de siège. Et puis en Syrie, des combats se poursuivaient ce matin entre groupes rebelles et forces royalistes en périphérie de la Ghouta orientale, région assiégée proche de Damas, en dépit de la 2e journée de trêve humanitaire prévue en Syrie. Les bombardements aériens du régime qui avaient repris en matinée se sont en revanche peu à peu estompés à partir de 9h locale, horaire qui marque le début de la pause humanitaire quotidienne de 5h décrétée par Moscou. Sous l'effet des bombardements intensifs et de combats à la lisière de la Ghouta orientale, les forces pro-régime ont réussi à progresser sur le terrain de manière limitée au niveau des localités de Hawk al-Zawahira et de Chifounia, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Il vous sera présenté par Henri Francisque. Bon après-midi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.